Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, mon nom est Jessica. Salutations fraternelles de mon église à Vancouver et de mon mari Paul qui ne pouvait pas venir ce voyage-ci, mais qui dit bonjour à tout le monde. C'est toujours spécial d'être dans l'église de mon enfance. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. Donc oui, comme plusieurs d'entre vous le savent, je travaille pour une organisation qui s'appelle Wycliffe, qui fait la traduction de la Bible dans les langues minoritaires autour du monde. Puis c'est vraiment un temps qui est excitant et important dans le monde de la traduction de la Bible parce que dans les prochaines 5 années environ, Wycliffe et ses partenaires vont avoir engagé les derniers groupes linguistiques qui ont encore besoin de la parole de Dieu dans leur langue. Bon, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je veux dire, ça peut prendre 20 années pour qu'une traduction soit complétée. Puis après ça, il y a les questions de diffusion, de s'assurer que l'engagement avec la parole est mis en œuvre. Mais on voit vraiment une accélération au niveau de la localisation puis la technologie. Donc, c'est vraiment un temps qui est incroyable. Puis, on va être la génération qui va voir le jour où toute personne sera capable d'accéder à la Bible dans une langue qu'elle comprend, la langue qui parle dans son cœur. Donc, gloire à Dieu. On peut applaudir. C'est bon. Donc, ça, c'est mon mari et moi. Il y a 3 semaines, on a eu le privilège d'être au Pérou. Paul voulait porter un poncho. Moi, j'ai décidé de ne pas participer. Mais on était au Pérou pour la dédicace de la Bible en langue quechua de l'Apurimac. Puis c'est une langue qui est parlée par environ 250 000 personnes. Je pense que je vais changer de diapositive. c'est une langue qui est parlée par 250 000 personnes dans les Andes du Pérou. La traduction a pris environ 20 années et déjà on voyageait des heures pour se rendre au service parce que finalement les Bibles sont arrivées dans leur langue. Puis pour la première fois dans l'histoire, ce peuple avait accès à l'ensemble de la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Puis c'était vraiment incroyable d'être là, de voir des gens tenir dans leurs mains leur première Bible. C'était comme incroyable comme moment pour ma vie. Ouais, on peut applaudir. Puis encore et encore, ce qu'on entendait pendant le service, c'est « Jésus parle le Quechua ». Jésus parle le Quechua. Gloire à Dieu, il parle ma langue. Je vais vous montrer une photo que j'aime beaucoup. C'est une jeune fille avec sa première Bible. Ouais. Donc, l'Oasis, en tant qu'église, et plusieurs d'entre vous personnellement, vous avez fait partenariat avec Wycliffe, ou vous faites partenariat avec Wycliffe dans la prière ou le financement, puis je veux vraiment vous remercier. Parce que grâce à vous, des moments historiques comme ça ont lieu. Puis c'est votre générosité qui littéralement place des Bibles dans la main d'une personne comme celle-ci. Des personnes qui ont attendu des fois toute leur vie, des personnes beaucoup plus vieilles que cette jeune fille, que toute leur vie ont attendu de pouvoir lire les mots de Jésus dans leur langue. Donc, on est vraiment reconnaissants. En voyant... Oh, c'est gentil. C'est correct. Je vais être très hydratée. C'est super. En voyant l'arrivée de la Bible dans cette communauté, j'arrêtais pas de me dire, OK, j'ai comme l'impression qu'on est à la ligne d'arrivée. Finalement, après 20 ans, la Bible est arrivée, la Bible Quechua est complétée. Mais en y songeant davantage, j'ai vraiment réalisé que c'est la ligne de départ. Hein? C'est le début maintenant de tant de vies qui vont être transformées, de foyers, de familles, des générations qui vont être transformées par la parole de Dieu. Puis je songeais aussi au fait qu'il y a tellement de ministères qui font partie de l'établissement du royaume de Dieu. L'évangélisation, le mentorat, le discipulat, l'implantation des églises, l'entraide, la justice sociale, tout ça, c'est tellement important. Désolée. Mais toutes ces œuvres dépendent de la parole de Dieu. Hein? La traduction de la Bible, c'est comme la fondation à un certain point. La parole nous informe de la vision de Dieu pour ses ministères, comment les mettre en œuvre, mais aussi que c'est la bonne nouvelle de Jésus qui est au centre de tout ça. Donc, je sais que vous êtes en train d'étudier l'Évangile de Marc, puis aujourd'hui, on va parler justement du discipulat, donc un de ses ministères, une de ses parties de l'établissement du royaume de Dieu. Puis on va regarder ensemble ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'appel des disciples. On va observer ensemble l'appel des premiers disciples de Jésus dans Marc chapitre 3. Donc, on va lire ensemble. Est-ce que vous êtes capable de... C'est un peu petit pour vous, mais peut-être ouvrez vos livres, vos Bibles, à Marc chapitre 3. On va lire les versets 13 à 20. Donc, c'est l'appel des premiers disciples. Donc, il, ou Jésus, monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Donc, c'est ça le texte qu'on va étudier ce matin ensemble. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un texte qui est descriptif, c'est une histoire, c'est pas vraiment une liste de règles ou de principes, comme il faut faire ceci et ceci et ceci quand tu es un disciple ou quand tu fais des disciples. Mais on peut quand même tirer des leçons intéressantes de la façon que Jésus appelle ses premiers disciples dans ce court passage. Donc, pour contextualiser le texte, il faut se rappeler encore une fois que c'est le début du ministère de Jésus. Okay? Donc, Jésus avait été très transparent jusqu'à présent que c'était bien lui qui était responsable d'établir le nouveau royaume de Dieu. Puis, c'était ça son objectif en tant que Messie. C'est, il va partager la bonne nouvelle du royaume et l'introduire ou commencer à le bâtir ici sur terre. Donc, c'est assez significatif qu'une des premières choses qu'il fait, c'est de désigner ses 12 disciples. Puis, on voit dans ce texte que Jésus est en train de distinguer ses disciples un peu comme un peuple qui est choisi. Il y avait 12 fils d'Israël, 12 tribus, puis maintenant, il y a 12 disciples. C'est un peuple choisi. Les 12 disciples de Jésus représentent l'établissement du nouveau peuple de Dieu parce que c'est un royaume qui est fondé sur un peuple. Vous me suivez? C'est bon? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va se poser la question, qui est ce peuple qui va inaugurer le royaume de Dieu? Donc, voici le profil de ses premiers disciples. Puis, en regardant un peu l'appel de ses premiers disciples, on peut penser à notre propre discipula et notre appel en tant que disciple de Jésus. Donc, voici le profil que Marc chapitre 3 nous donne un peu par rapport à ses premiers disciples. Donc, un, le peuple choisi de Dieu, c'est un peuple qui est dans la présence de Jésus. Numéro 2, c'est un peuple qui proclame la bonne nouvelle. Numéro 3, c'est un peuple qui chasse les démons. Et numéro 4, c'est un peuple qui est uni. Donc, c'est ça les 4 points qu'on va étudier ce matin. Donc, on va commencer avec le premier point. Commençons avec l'idée d'être un peuple qui est dans la présence de Jésus. Marc 3, 14 nous dit, « Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Donc, vinrent auprès de lui, les avoir avec lui. Ses disciples sont dans la présence de Jésus. Ils s'assoient avec lui, mangent avec lui, marchent et voyagent avec lui. Ils observent comment il agit, comment il réagit, comment il traite les autres, comment il met en œuvre son ministère, comment il aime les autres, se repose, se travaille, profite de la création, comment il prie. Ils sont dans sa présence puis ils observent toutes ces choses. Au fond, Jésus est en train de les inviter à être complètement formé en son image, en étant à ses côtés, dans sa présence. Mais pour nous, de quoi ça a l'air? Jésus n'est pas assis ici avec nous. C'est quoi être dans la présence de Jésus? Bien, d'une part, on sait que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus lui-même, nous habite en tant que croyants. Quelle bonne nouvelle! Il est toujours avec nous, on est toujours dans sa présence. Mais aussi, il y a des disciplines spirituelles qui nous permettent d'entrer dans sa présence aussi. Puis je dois vous dire que quand je pense aux personnes dans ma vie que j'admire, des disciples de Jésus vraiment qui m'inspirent dans ma vie, il y a une chose qu'ils ont tous en commun. Puis le texte ne nous dit pas ceci exactement, mais je me permets de vous le dire. Toutes ces personnes, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles commencent leur journée dans la parole de Dieu et elles prient, et dans la prière. C'est un rythme, c'est une habitude que, pour être honnête avec vous, moi j'ai beaucoup de misère à pratiquer de façon fidèle et assidue. Okay? Donc, sentez-vous pas mal à l'aise quand je vous dis que c'est une pratique importante. Moi, j'ai de la misère à la mettre en œuvre. Pour ceux qui entendent ceci puis se disent « Ah, oh, moi, avec mon horaire ou dans cette saison de ma vie, je sais pas si je peux faire ça ou j'ai essayé puis je suis pas capable. » Entendez-moi clairement, moi aussi, c'est un rythme qui ne me vient pas très naturellement. Puis, je manque beaucoup de discipline au niveau de mon culte personnel. Puis, je veux grandir là-dedans, moi aussi. Mais je pense que, je veux dire, une chose qui est importante à tenir en compte, c'est qu'il y a beaucoup de liberté au niveau de la façon de le faire. Okay? Je pense qu'on peut observer cette discipline spirituelle de différentes façons. Ça ne doit pas être le matin. ça doit pas être assis sur votre divan, vous pouvez aller marcher. Il y a différentes façons hein, que ça peut fonctionner. Mais je pense que l'idée ici, c'est qu'il faut commencer petit à petit à pratiquer cette discipline, de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que ce que je peux garantir, c'est que toutes les personnes que je connaisse qui ont cultivé cette habitude de passer du temps quotidiennement dans la parole et dans la prière, ils ont zéro regret. Il n'y a pas une personne que je connais qui lit sa Bible à chaque jour qui imagine sa vie sans cette habitude. Ça nous change. Ça nous forme. Passer du temps dans la présence de Dieu, de Jésus, chaque jour, ça va te transformer. C'est garanti. Dans Jean 15, 5, on lit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà l'invitation de Jésus pour ses disciples, de demeurer en lui, d'être dans sa présence, et des fruits vont en sortir. Puis c'est vrai pour nous aussi en tant que disciples de Jésus, n'est-ce pas? Chaque aspect de notre vie devrait être radicalement changé, transformé, parce que nous sommes dans la présence de Jésus. La façon qu'on travaille, la façon qu'on gère notre argent, la façon qu'on ouvre nos foyers aux autres, la façon qu'on élève nos enfants, tout devrait être complètement différent que le monde autour de nous, en tant que le peuple de Jésus, choisi pour sa mission, parce qu'on est dans sa présence. Et on poursuit sa présence. Donc voilà le premier point. Le peuple choisi de Jésus, le peuple en mission avec Jésus, c'est un peuple qui est dans sa présence. Donc on va passer au deuxième point. Qui est ce peuple choisi pour la mission? Deux, c'est un peuple qui proclame la bonne nouvelle du royaume. On voit dans le verset 14-15, donc Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. C'est le deuxième point. Les disciples avaient pour mandat d'être un peuple qui prêchait. Puis ceci est souvent vu comme un acte qui est fondamentalement verbal ou vocal. C'est la déclaration de la bonne nouvelle avec les mots, ou mes amis linguistes à Wycliffe diraient rapidement, c'est avec la langue. Puis d'une part, c'est vrai, écoutez, je vais vous lancer comme défi aujourd'hui, en partant aujourd'hui, je veux que vous vous posiez la question, c'est quoi la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ? Est-ce que je suis capable de verbaliser avec des mots, dans mes propres mots, c'est quoi cette bonne nouvelle? Comment est-ce que je serais capable de l'expliquer à mon voisin, à ma collègue, aux membres de ma famille qui ne connaît pas Jésus? Est-ce que je suis capable? C'est important. Je vais vous raconter une histoire un peu embarrassante. Il y a quelques années, j'avais une bonne amie qui habitait dans mon voisinage à Dorval, puis elle m'a posé la question. Elle a dit, « Au fond, Jess, qu'est-ce que tu crois? » Puis j'étais comme, « Alerte rouge! » Alerte rouge, le truc que j'espérais allait arriver est en train d'arriver, puis je ne sais pas quoi dire. Alerte rouge. J'étais pas préparée. Je sais même pas ce que j'ai répondu. Je sais, par contre, que l'Arche de Noé est rentrée dans la conversation à un certain moment. C'était la catastrophe, OK? Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, comme j'ai mentionné plus tôt, nous habite et nous aide dans ces moments-là. Puis je pense qu'il était à l'œuvre malgré moi. Puis on a eu d'autres belles conversations par la suite, mais avec du recul, aujourd'hui, je peux vous dire que ça aurait été probablement positif d'être un peu plus préparé pour cette question. Je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes ici, mais bon, ce n'était pas mon meilleur moment. Puis c'est ma prière pour nous tous, okay? En tant que peuple choisi, en tant que disciple de Jésus, que la bonne nouvelle nous habite si profondément, puis qu'on se la répète tellement souvent, que quand quelqu'un nous pose la question « Qu'est-ce que tu crois? » que les mots déferlent un peu plus naturellement et facilement. Hein? Donc, j'ai grandi, moi, avec l'Évangile ou la bonne nouvelle de Jean 3, 16. Comme plusieurs d'entre vous, je suis certaine. Le message était simplement, « Je suis une pécheresse, je mérite la mort et l'enfer. Jésus est mort sur la croix pour pardonner mon péché. Et pour cette raison, je peux aller au paradis vivre avec lui quand je meurs. » Puis, ce message était vraiment important pour mon salut. Puis pour la plupart de ma vie, et honnêtement, je pense que pour la majorité d'églises, surtout nord-américaines, c'est vraiment ça notre compréhension de l'Évangile. Puis je suis pas en train de vous dire ce matin que c'est pas ça l'Évangile. Mon père va jamais me réinviter. Mais je pense que cette bonne nouvelle, cet Évangile, c'est pas complet. C'est pas suffisamment comme description de la bonne nouvelle. Donc on va regarder ça ensemble. Quand on regarde l'Évangile de Marc devant nous ce matin, on voit un message qui est un peu différent. chapitre 1, donc on va retourner deux chapitres. Puis vous allez, je pense, explorer ce passage la semaine prochaine. On va retourner. On lit au verset 14 et 15 un résumé de la bonne nouvelle du royaume de Jésus que Jésus et ses disciples ont prêché et que nous aussi, on est invités à prêcher. Donc, au chapitre 1, on lit. Est-ce que je suis à la bonne diapo? Oui, OK. Au chapitre 1, on lit, verset 14. Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. OK, c'est quoi cet évangile? Verset 15. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, c'est ça le résumé, OK? Voilà l'évangile de Jésus. Pour ceux et celles ici qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle, ou pour ceux et celles qui ont besoin de se rappeler de cette bonne nouvelle, l'accent ou le focus, puis c'est ça que je veux que tout le monde se rappelle aujourd'hui, l'accent ou le focus de l'évangile, c'est pas sur mon péché. C'est sur la victoire de Dieu sur mon péché. N'est-ce pas? Voilà la bonne nouvelle. Le Dieu de l'univers a créé un monde, mais nous avons rompu la communion avec lui à cause du péché, oui. Mais dans sa beauté, Jésus est venu restaurer la communion entre Dieu et l'humanité. Et c'est cette partie qu'on oublie souvent. Il a ensuite inauguré un nouveau royaume. Non seulement nous aurons la joie d'être avec lui pour l'éternité, mais nous avons aussi le privilège de collaborer avec lui dans l'établissement du royaume ici. Merci. C'est une bonne nouvelle. On établit une nouvelle création avec lui. Un royaume qui est déjà mis en œuvre parmi nous. C'est une très bonne nouvelle, ça. Puis aussi, il faut se rappeler de la bonne nouvelle qu'il va revenir. Il va mettre fin une fois pour toutes à tout ce qui appartient au péché et à la mort pour établir une nouvelle terre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen? Amen. Bref, c'est pas ça que j'ai dit à mon ami cette journée-là. C'était un peu ma tangente sur l'évangile ou la bonne nouvelle de Jésus ce matin, mais le premier point, bon, c'est qu'il faut être capable de verbaliser cette bonne nouvelle, OK? C'est ça que le peuple choisi de Dieu, ses disciples, ont comme mandat, c'est de prêcher cette bonne nouvelle. Puis, ils vont faire ceci verbalement, oui, mais pas juste verbalement. Puis c'est ça mon deuxième point. Matthieu 11, verset 19, nous dit « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. » C'est quoi le rapport? Bien, ça nous rappelle que Jésus n'était pas juste en train de prêcher, évangéliser, enseigner. Il partageait la bonne nouvelle en vivant. Parce que la bonne nouvelle, c'est une réalité qui est parlée et incarnée. Une proclamation qui est vécue avec toute notre vie, n'est-ce pas? Nous devrions être tellement formés par la présence de Dieu, comme j'ai mentionné au point 1, que nos actions parlent très, très fort. Bien plus que seulement nos pensées ou nos réflexions sur l'Évangile. Il y a un vieil adage qui est parfois attribué aux franciscains, que moi j'apprécie, c'est « prêcher l'Évangile en tout temps. Si nécessaire, utiliser des mots. » Donc, autre que par nos paroles, comment est-ce qu'on proclame l'Évangile dans nos vies? À quoi ressemble une proclamation avec toute notre vie? Mais voici quelques exemples. C'est un peu petit. Aïe, aïe, aïe. Désolée. Mais je vais vous les lire. Bon, il y a la générosité, il y a la patience, la paix, il y a le repos et le sabbat, la simplicité ou le contentement, la bienveillance, l'espoir, l'hospitalité et l'accueil, la justice, la défense des autres, la proximité avec les pauvres, l'aide aux réfugiés, aux orphelins, aux veuves, le pardon, la miséricorde, l'amour. Toutes ces choses sont des façons qu'on proclame et qu'on prêche la bonne nouvelle du royaume. Bref, c'est par la parole et par les actes que nous montrons, que nous proclamons et que nous prêchons au monde qui est le Dieu de la Bible. Je vais passer un peu de temps sur un des points pour vous donner un exemple. Pensez un peu à la générosité. C'est le point sur lequel je veux mettre l'emphase ce matin. C'est juste un des exemples. Donc, dans un monde qui est vraiment marqué par l'accumulation puis l'égocentrisme, le fait de dire « tout mon argent, toutes mes possessions t'appartiennent, Seigneur » et de donner volontairement notre argent à l'œuvre du royaume, c'est un témoignage très puissant au monde autour de nous. Je travaille, justement, comme mon père m'a enseigné ce matin pour Wycliffe, mais je travaille dans l'équipe de levée de fonds, de développement, on appelle. Puis, lorsque j'entends les histoires et les témoignages de nos donateurs, ça m'épate. Plusieurs organisations, dont Wycliffe, c'est une autre tangente, sont vraiment en train de souffrir financièrement en ce moment. C'est pas un temps qui est très facile, non seulement à cause de l'économie juste en général, mais aussi avec les grèves postales qui ont vraiment causé beaucoup de problèmes cette année. Mais ce qui est incroyable, c'est quand je vois des enfants de Dieu, des disciples, qui choisissent de faire d'incroyables sacrifices. Certains qui ont décidé de garder seulement un petit pourcentage de leurs revenus et de donner tout le reste. D'autres qui ont très peu, mais qui choisissent, même si on est en train de lutter financièrement en ce moment, mais on veut donner quand même. Tout ça parce qu'ils veulent s'assurer que la bonne nouvelle de la parole de Dieu parvienne entre les mains de personnes comme les Quechua que je vous ai montré plus tôt. Je suis vraiment touchée par ça. Ils veulent s'assurer que rien n'empêche quelqu'un d'avoir accès à la Bible. Il y a un donateur qui m'a dit justement il y a quelques semaines, il dit « Il y a beaucoup de dépenses dans ma vie que je regrette. La veste dans laquelle je n'ai jamais réussi à rentrer, le meuble qui n'était plus à la mode après quelques années, ça je les regrette, mais jamais est-ce que j'ai regretté de pratiquer la générosité pour le royaume de Dieu. » Jamais. Bref, la fidélité de ses disciples m'édifie, moi, en tant que chrétienne, mais aussi le monde autour d'elle, le monde autour d'eux, plutôt. Parce que c'est tellement à contre-courant de notre culture qui dit « Garde ton argent, c'est à toi, économise. » Puis je dis pas de pas économiser, là, mais c'est vraiment une façon incroyable de proclamer la bonne nouvelle puis de s'assurer que d'autres personnes l'entendent. Donc, je vous invite un peu à songer aujourd'hui à comment, vous aussi, par vos mots, mais aussi par votre générosité, votre hospitalité ou autre, comment vous aussi, vous pouvez prêcher la bonne nouvelle à notre monde. Donc, on va passer au prochain point maintenant. Qui est ce peuple choisi pour la mission de Dieu qui va inaugurer le royaume? C'est un peuple qui chasse les démons. Donc, le point le plus facile à expliquer. Donc, c'est sûr que dans notre contexte culturel du 21e siècle, où la norme, c'est vraiment de croire ce qui est rationnel, ce qui est vraiment objectif, on ne sait pas toujours comment donner sens au monde invisible, hein? Aux réalités spirituelles qui agissent au-delà de ce qu'on peut voir. Mais elles sont bien là. Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais s'il y a une chose que je veux vous dire ce matin par rapport à ce point, c'est que les puissances des ténèbres tremblent au nom de Jésus. En tant que disciples de Jésus, nous avons en son nom le pouvoir et l'autorité de renverser les forces démoniaques et de briser leurs forteresses autour de nous. Amen. Mes frères et sœurs, avant de nous préoccuper avec les exorcismes et la chasse aux démons, posons-nous plutôt cette question. Comment est-ce qu'on fait en sorte que Satan n'ait même pas accès dans nos cœurs et dans nos vies? Bien, vous avez entendu la réponse à cette question dans un message il y a quelques semaines, je pense. La réponse, c'est qu'on ne laisse pas le péché s'enraciner dans notre vie. On fuit le péché. On sort la poubelle avant que les rats rentrent dans le garage. Parce que lorsque le péché s'enracine, c'est là que Satan bâtit des forteresses dans nos cœurs et dans nos vies. Bref, en tant que disciples de Jésus et en tant que peuple choisi pour sa mission, on chasse le péché et les forces de Satan. Ça, c'est le troisième point. Et finalement, on arrive au quatrième point. Les disciples forment un peuple uni. On voit ce groupe, la liste dans Marc 3 que Jésus appelle nom par nom. Ils sont tous très différents. Très différents. Des personnalités différentes, des identités différentes. Il y en a qui font de la pêche, il y en a qui sont collecteurs d'impôts. C'est vraiment tout un mix, un mélange. Puis je regarde cette salle devant moi, puis je vois un mélange ici aussi. Puis chacun de nous sommes appelés, comme ce mélange de disciples, à être le peuple choisi de Jésus. Et ils arrivent, comme nous, avec des identités culturelles différentes, des nationalités différentes, des âges, des expériences différentes. Mais l'appel des disciples de Jésus, c'est quoi? C'est de mettre de l'ordre dans nos priorités. D'abord, avant notre ethnie, avant notre nationalité, notre culture, notre genre, notre langue, nous sommes des disciples de Christ. C'est vrai? C'est notre identité première, notre identité nouvelle, celle qui nous définit en tant que le peuple de Dieu. dans mon église à Vancouver, quand on pratique la table du Seigneur, donc on fait la Sainte Cène à chaque semaine. Puis on se rassemble dans un vieil édifice. Le pain et le jus sont à l'avant de la salle, sur l'autel, dans l'autel, sur, aidez-moi. C'est une église qui se rassemble en anglais, comme vous pouvez peut-être le voir maintenant. Puis rangée par rangée, on commence par la première rangée, puis on avance un par un, puis tout le monde avance, un à la fois. Puis on va à l'avant pour recevoir les éléments de la communion à l'autel. Puis à l'avant, les serviteurs de la communion répètent à des centaines de personnes le corps de Christ donné pour toi, le sang de Christ versé pour toi. Le corps de Christ donné pour toi, le sang de Christ versé pour toi. Puis la semaine passée, Paul et moi, on était les serviteurs. Puis je vous dis, à chaque semaine, quand on sert la communion, ça me prend environ 5 secondes avant que je commence à être un peu émotionnelle puis que je pleure. Parce que c'est vraiment une chose puissante de voir visage après visage, tous tellement différents, tellement uniques. Il y en a qu'il faut que je regarde plus haut, il y en a que je dois regarder plus bas, ils sont en chaise roulante, le dos courbé. Tout le monde est différent. Il y a mon amie qui est 9 mois enceinte avec son premier bébé, il y a un homme qui avance à chaque semaine avec son fils adulte qui a la trisomie 21, il y a mon amie Sandra qui vient d'arriver à Vancouver du Cameroun. Il y a un jeune homme arabe, un par un, visage par visage. Je répète, le corps de Christ a été donné pour toi. Il a été donné pour toi. Il a été donné pour toi. Il a été donné pour toi. Puis cette diversité est de grande importance. Elle est vraiment belle et précieuse. Mais ce que toutes ces personnes ont en commun, c'est la chose la plus importante à leur sujet. Puis ça, je trouve ça vraiment puissant. Ils sont tous, chacun d'eux, parmi le peuple de Dieu, parce que le corps de Jésus a été donné pour eux et son sang a été versé pour eux. Et maintenant, il les appelle à être ses disciples. Et chère Église Oasis, ceci est vrai pour vous aussi. C'est mon encouragement pour vous ce matin. Vous êtes un peuple choisi, vous aussi. Vous êtes un peuple choisi, appelé ensemble pour la mission, ici à Pierrefonds, à Montréal, au Québec, au Canada et jusqu'aux extrémités de la terre, à inaugurer le royaume de Dieu. Et vous êtes unis, différents, avec une diversité de cultures, de langues maternelles, de personnalités différentes, mais vous êtes unis dans cette mission avec ces 4 points. Donc, de vivre dans la présence de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de renverser les forteresses dans un monde où le royaume de Dieu a déjà été inauguré et est à l'œuvre aujourd'hui, et qui est un peuple qui est uni. Et frères et sœurs, rappelons-nous de ces mots de Jésus, qu'il a sans doute dit à ses disciples, et que ses disciples ont répété à plusieurs autres, « Le temps est accompli. » Je vais retourner, je pensais que j'avais le verset. On va se rappeler de la bonne nouvelle. Donc, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Amen.
Amen.
Donc, c'est tout pour ce matin pour moi. On va passer un peu de temps dans la prière. Je sais pas, il est quelle heure, je vois pas le temps. Donc c'est bon, ok. On va prier ensemble, puis ensuite l'équipe de louange peut monter. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'est-ce qu'on ferait sans ta parole? Quel don pour nous. Je te remercie pour ce temps ensemble et pour ce passage sur le discipulat. Et sur l'appel de tes 12 premiers disciples. Je prie que chacun et chacune de nous, appelés par ta grâce à être ton peuple en mission, mette en œuvre ce qu'on a lu ce matin. De poursuivre ta présence, de prêcher la bonne nouvelle de ton royaume. Avec non seulement nos mots, mais aussi l'ensemble de nos vies. De renverser les forteresses et d'être un peuple qui est uni avant tout. Seigneur, aide-nous avec tout ça. Dirige-nous dans ta mission. À toi la gloire. Amen.